Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine !
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour Tonnerre de Brest, votre rendez-vous théâtral sur les ondes de Syllab. On retrouve tout de suite Fia Ménard, que nous avons la chance d'interviewer aujourd'hui en salle Gabili du TNB à Rennes.
Bonjour Fia Ménard. Dans une première partie, du coup, on va parler un peu de la compagnie et des intentions artistiques de manière plus générale. Et dans la seconde partie, du coup, on parlera des trois contes immoraux pour Europe. Du coup, déjà, on peut commencer par parler de la compagnie. J'aime beaucoup le nom qu'elle porte, Non Nova, qui vient de l'expression latine Non Nova Sed Nove. Nous n'inventons rien, nous le voyons différemment. Est-ce que vous pouvez peut-être essayer de nous dire comment cette phrase illustre le travail de la compagnie ?
Bon, déjà, elle illustre une chose simple, c'est qu'on peut se dire 20 ans ou 21 ans après la création de la compagnie, au moment où j'appelle la compagnie ainsi, je ne pensais pas finalement qu'elle vivrait comme ça. C'est-à-dire, j'imaginais pas que ce terme, ben, j'en serais toujours d'accord. Et je crois que j'en suis d'ailleurs d'autant plus d'accord que j'ai vraiment l'impression de rien inventer. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression de me retrouver face aux éternelles questions. Et ça fait que ça continue à me travailler au quotidien, en fait. Donc oui, j'ai pas l'impression d'inventer. J'ai plutôt l'impression de sans arrêt revenir sur cette question. Mais pourquoi tant de violence ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi est-ce si difficile de trouver l'apaisement ? Plus que la paix, parce que la paix est une drôle de question, mais l'apaisement en tant qu'être humain, qu'est-ce que ça veut dire être apaisé aujourd'hui ? Et puis finalement de me dire, bah, je suis convaincu de continuer à poser des questions et à n'avoir aucune réponse et de privilégier la question pour le dialogue plutôt que la réponse pour obéir.
Vous dites que vous n'inventez rien, mais l'axe central de la compagnie, c'est sur l'imaginaire. Et vous êtes bel et bien aussi accroché au réel par la manière dont les actualités et les références concrètes font partie des notes d'intention des spectacles. Pourquoi créer un tel décalage ?
Bon, déjà et d'une, parce que le théâtre, c'est du faux. Il faut bien se dire, le théâtre ne peut être que du faux et il doit rester que d'être du faux. C'est-à-dire qu'il a cette valeur assez incroyable, c'est que le théâtre est le seul endroit où on peut tuer ses parents. C'est le seul endroit où on peut manger, c'est le seul endroit où on peut parler de l'inceste. Donc ça veut dire que dans cette notion un peu psychanalytique, finalement, c'est le seul endroit où on peut parler de tous les interdits, les mettre en scène, et finalement les mettre en scène pour qu'ils n'existent pas à l'extérieur, et bien les distinguer. Donc ça veut dire que sans arrêt, il y a cette relation aussi. Dans l'imaginaire n'est que sans arrêt le désir de vouloir changer le quotidien. Et c'est bien ça, en fait. C'est-à-dire que le théâtre interroge ce que nous ne comprenons pas, que nous n'arrivons pas à résoudre. Et c'est là où il faut convoquer l'imaginaire, dans l'imaginaire où on trouve des solutions, en fait. Et c'est bien cette possibilité-là de convoquer l'imaginaire du spectateur. Et je crois que c'est pas inventé, en fait. Je crois que c'est sans arrêt décaler le regard, ramener une relation. Alors c'est vrai que moi, j'ai une relation au corps. Et donc c'est vrai que toute la pratique que je développe, en tout cas sur scène, la manière dont j'écris, convoque toujours une relation assez violente avec le corps. C'est vrai que j'aime ce rapport-là, peut-être parce que je la déteste à l'extérieur, alors je pratique la violence à l'intérieur. C'est aussi parce que dedans, je crois que la plus grande question est celle-ci, c'est-à-dire de faire que nous apaiser avec nous-mêmes, c'est la possibilité à un moment de retrouver le dialogue avec l'autre. Donc c'est vrai que ce lien avec le quotidien, il est très fort tout simplement parce que en tant qu'artiste, je reste une femme dans la société et je reste un être humain qui vit comme tout le monde. Je veux dire, au moment où je sors du théâtre, je suis un être humain qui revit la même relation au monde que les autres. La seule chose, c'est que j'ai besoin du théâtre pour continuer à vivre. Parce que c'est le seul endroit où je trouve une vraie raison. C'est le seul endroit où je sais que j'ai une capacité à générer une force positive, en fait. Celle à l'extérieur, je m'aperçois que pour moi qui suis militante, me laisse sans arrêt face à cette question. C'est finalement, je voudrais une révolution. Je voudrais sans arrêt basculer dans cette envie de la révolution. Mais basculer dans l'envie de la révolution, c'est accepter la mort. Mais pas accepter la mort comme inéluctable à la vie, mais c'est accepter que l'idéal ne se rencontre pas. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on peut se dire qu'on célèbre les 150 ans de la Commune de Paris, et finalement, dans les 150 ans de la Commune de Paris, on peut se dire que ceux qui ont fait la révolution sont morts. Ceux qui ont toujours fait la révolution sont morts. Donc ceux qui font la révolution ne sont pas ceux qui jouissent de la révolution. Donc il y a cette relation pour moi au quotidien terrible. C'est que j'ai besoin de continuer à vivre parce que j'aime la vie et en même temps j'aimerais la changer. En gros, voilà, je suis complètement inadapté.
Vous étiez en train de parler du corps et justement en 2008 vous avez lancé ICE, un jonglabilité complémentaire des éléments. Donc différents éléments apparaissent alors, la glace, le vent, la sublimation, l'eau, la vapeur, qui sont directement liés au corps. Comment est-ce que vous attribuez une œuvre à un élément ?
Alors je crois que je ne l'attribue pas, c'est qu'elle se confronte. Ce que je veux dire c'est que... Mais c'est une confrontation un peu particulière. Ce que je veux dire, c'est que pour arriver à la notion de ICE, il a fallu que je bascule par une sorte de double ligne de vie qui était une d'un côté mon identité et puis de l'autre ma pratique. Je veux dire, à l'époque, j'étais un garçon avant et bah, en tout cas, j'étais d'une identité masculine. Puis je jonglais. Donc j'avais cette identité du pouvoir et la virtuosité. Les deux arrivaient au même endroit et finalement me confrontaient à une relation, c'est que je ne comprenais pas, je n'en tirais aucun plaisir. Je n'en tirais qu'un plaisir qui correspondait à celui de la société du spectacle. Par contre, je voyais bien le fossé qui se créait entre ce que j'espérais en tirer, c'est-à-dire l'apaisement justement. Et je reviens vraiment sur ce mot-là parce que c'était cette question, bah, plus on regardait ma virtuosité de jongleur, plus je me cachais en fait, je ne me mettais pas à dire mais finalement je ne suis pas à cet endroit-là, j'ai envie d'être ailleurs. Ce qui fait que aussi les œuvres que je pouvais écrire avant, quand je les regarde aujourd'hui, me semblent en effet impossibles à comprendre parce qu'elles étaient sans arrêt empêchées ou elles étaient une sorte de maelstrom qui était indéchiffrable. Même pour moi-même, maintenant, quand je le regarde, je me dis « Ah bah oui, en fait, c'est parce que j'osais pas traiter de tel sujet. » Je restais dans l'idée que le spectacle devait correspondre à quelque chose. Au moment où l'identité a été plus forte qu'autre chose, elle a aussi provoqué le fait de dire « Bon, il faut te débarrasser de la virtuosité. » Donc, je me suis débarrassé des objets. Donc, c'est là où j'ai commencé à dire « Il faut que je sorte de ce qui est répertorié comme objet de jonglerie, d'où l'injonglabilité. » Et à ce moment-là, voilà, j'ai végété dans un moment de ça où j'ai commencé à me dire, bon, il faut que... Donc j'ai jonglé avec des cactus, après j'ai pris des vers qui pouvaient me couper, après j'ai pris des tôles coupantes. J'ai cherché à savoir à quel endroit correspondait cette pensée. Et puis je suis arrivé finalement à cette rencontre avec la glace en premier, qui m'a tout de suite propulsé dans une relation à me dire, la glace, c'est celle qui me faisait faire le lien entre on aime voir la glace mais on n'aime pas la toucher. Et en même temps, la glace disait le côté du temps, c'est qu'elle disparaît. Et que jongler avec de la glace, ça voulait dire prendre le risque de toute façon que ça rate. Et peut-être d'accentuer encore plus la relation du spectateur à cette forme d'art, c'est-à-dire qu'il attend l'échec. Et je crois que l'être humain étant quelqu'un qui passe son temps à essayer de repousser son échec, ça m'a tout de suite parlé. Et finalement, à partir de là, j'ai regardé différemment mes désirs d'écriture, j'ai simplifié ma vie voilà, en faisant cette transition. Mais surtout, j'ai commencé à me dire, mais chaque sujet doit être pris à un endroit d'une recherche presque archéologique et le confronter à l'état primaire. Et l'état primaire, c'est finalement quel est le sujet et dans quel environnement il est. Et l'environnement, finalement, te pose tout de suite la question de, ok, si tu es dans le théâtre, qu'est-ce qui va faire que le spectateur de son fauteuil puisse dépasser simplement l'objet de la représentation d'une forme de regard, mais d'être pris par ce qu'il est en train de regarder. Donc de vivre la situation de la scène, et justement c'est ça, c'est-à-dire que moi je lui demande de vivre en effet un spectacle où il y a du faux, mais en même temps il le vit dans son corps, et presque il est sans arrêt basculé par le désir et le dégoût, c'est-à-dire qu'il y a les deux qui sont dedans, c'est-à-dire qu'il il a envie de participer à la liesse, il a envie de participer au combat, et en même temps, il voit bien que le combat coûte cher, a une répercussion en fait, et que ça lui demande de sortir de son confort. Alors bon, l'avantage du théâtre, c'est qu'on lui sort du confort le temps de la représentation. Mais c'est aussi lui offrir la possibilité de le penser, et peut-être de dire, ce confort-là, regarde-le. Donc c'est vrai que la matière... Aujourd'hui, elle se met comme ça, elle arrive, si je prends les contes immoraux par exemple, l'eau, la pluie qui arrive sur la fin de Maison Mère, sur la première partie, elle était pour moi évidente dans le sens où, d'un point de vue politique, je m'étais dit, aujourd'hui, dans une société néolibérale et avec cette vision très nécropolitique du monde aujourd'hui, on pourrait imaginer des grandes manufactures du type IKEA qui seraient capables de vendre des maisons en carton pour les migrants et qui trouveraient un super joli nom et qu'on pourrait acheter et qu'on offrirait un peu comme les tentes quechua qu'on offre aux SDF, aux migrants, et puis qu'on voit maintenant, et finalement on a l'impression qu'on a résolu le truc. En fait, non, pas du tout. On s'aperçoit qu'on ne résout rien du tout. Donc là, la pluie, elle arrive et puis elle détruit la maison. Et c'est un peu dire qu'en fait, on se croit avoir trouvé une réponse, mais on n'a pas, on ne fait que des réponses de l'instant. On n'a aucune vision qui vont dans le long terme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se projeter dans le long terme. On se projette que si on a des enfants ou des choses comme ça, mais on refuse finalement de prendre en charge. Et c'est comme la révolution, je veux dire, c'est ce même truc. C'est qu'on ne veut pas, nous, être les victimes de la douleur de la révolution, pour pouvoir espérer que le monde continue. En fait, on a cet égoïsme terrible en nous, en fait.
Et du coup, dans votre biographie, il est fait immédiatement mention du spectacle Extraval de Jérôme Thomas de 1990. C'est assez peu fréquent que les artistes témoignent de leur éveil culturel, enfin de leur révélation. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de faire part de cette découverte particulièrement et de la lier au travail que vous avez fait après ?
Bon, déjà et d'une, comme je ne suis pas une enfant de la balle, que je n'étais pas non plus adolescente, enfante, quelqu'un qu'on emmenait au théâtre, il n'y avait que l'école qui nous emmenait au théâtre. Donc je veux dire, grâce à la décentralisation et grâce à tout ce qu'on peut décrier aujourd'hui, malgré tout, j'ai pu voir des choses, sauf que ce que je voyais, c'était ce qu'on voit à mon époque, c'est-à-dire d'aller en voir un Tartuffe, d'aller voir un Corneille. Lorsque moi, à l'âge de 19 ans, je vois pour la première fois, parce que je suis étudiante à Nantes et que j'habite à côté d'un théâtre et que pour la première fois je vais franchir la porte et puis je me demande ce que je vais aller voir et que j'ai appris à jongler et on me dit « Ah, mais il faut absolument que tu vois Jérôme Thomas », et je vais voir Jérôme Thomas, et là, en fait, c'est un choc. C'est-à-dire que d'un seul coup, je vois une forme sur scène qui ne ressemble à rien de ce que je pouvais comprendre, imaginer ou même qu'on m'ait proposé jusqu'à présent, et qui répond tout de suite à une question de satisfaction, d'évidence, c'est « Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais c'était d'une puissance et c'était d'une beauté ». Et c'était d'un corps, et c'était d'un imaginaire, et je me suis évadé, et j'ai oublié le monde. Et peut-être que c'est une des choses les plus incroyables, c'est que peut-être c'est la première fois où j'ai oublié le monde. Et ça, je crois que c'est le déclic propre de l'art. C'est-à-dire, l'œuvre d'art, si elle a cette capacité-là à faire d'un seul coup, à ramener la possibilité d'une autre forme de sensation, forme d'émotion, forme de perception du monde, c'est gagné. Et je crois que quand je dis en effet que cette première pièce qui sera vraiment déclencheur, elle déclenchera aussi une porte d'entrée dans toute une sorte de vision de l'art qui n'est pas de dire le théâtre, il faut que je connaisse les textes, la danse, je ne comprends rien parce que c'est du geste, l'opéra, je ne comprends pas parce que c'est de la musique hyper classique, mais d'un seul coup, je suis face à quelque chose qui danse, qui bouge, qui jongle, qui crée de la lumière, de l'émotion, d'un seul coup, je suis dans un monde qui, finalement, où je m'aperçois que je n'ai pas à savoir. Et c'est peut-être la première des relations, c'est qu'on ne me dit pas « tu es une idiote parce que tu ne sais pas ». Et je crois que c'est ce franchissement très souvent qu'on voit avec les spectateurs. Des nouveaux spectateurs, si vous allez chercher des spectateurs, et c'est ça le travail des RP, notamment des relations publiques, c'est de réussir à convaincre, dire à la personne qui dit « mais le théâtre, c'est pas fait pour moi », c'est de lui dire « pourquoi ?» Parce que je ne sais pas si je fais bien les choses, mais est-ce qu'il faut faire les choses ? Non. La question, c'est justement de dire, il n'y a pas de savoir-faire. L'art est un savoir-faire, mais par contre, être spectateur, c'est de savoir se libérer. C'est de savoir se libérer. Et c'est cette question-là.
Du coup, en plus de vous libérer du monde lors de cette première représentation, concrètement, qu'a apporté Jérôme Thomas à votre travail ? Oui, vous avez été formé avec lui.
Alors c'est peut-être d'autant plus facile pour le dire aujourd'hui que j'ai plus tellement de relations avec Jérôme. Ça a été de toute façon un maître, un de mes maîtres. J'en ai eu deux, hein. J'ai eu lui et Hervé Diasnaz, deux opposés. Je pense que ce qu'il m'a appris, déjà la première des choses, c'est qu'il m'a amené à regarder plus loin qu'une pratique. Il m'a amené à une relation qui est de dire, finalement, le pouvoir d'une pratique est celle de sans arrêt aller se frotter aux autres. Et je crois qu'à cette époque-là, donc on est au début des années 90, c'est vraiment le début de ce qu'on va appeler tout le nouveau cirque. C'est le moment où finalement on commence à se frotter la jonglerie à la chorégraphie, on commence à se frotter à des formes qui sont sans arrêt à se dire la performance en elle-même c'est bien, mais elle n'est pas suffisante et elle a un autre... Et peut-être c'est un rapport plus cosmique. Je pense que dans la notion de maître, on tombe aussi dans quelqu'un qui a une certaine mystique. Et c'est quelqu'un qui a une mystique. Et cette mystique, elle était assez belle parce qu'elle est reliée pour moi complètement à la notion du cosmos. Et je crois que c'est une notion essentielle parce qu'elle est tout de suite extrêmement forte en pensée, de s'imaginer dans l'espace, de s'imaginer est-ce que ça veut dire être dans l'espace, d'être un point, d'être... Et puis je crois qu'il y a aussi la notion très importante, c'est qu'il m'a emmené très vite dans un rapport de confrontation à une formation qui n'était pas celle des écoles. Ça veut dire de rencontrer d'autres artistes. C'est quand même le premier à me montrer un film de Tarkovsky, de regarder Les Sept Samouraïs de Kurosawa et de m'interroger sur qu'est-ce que je suis en train de regarder, de me faire rencontrer des musiciens de jazz dans l'improvisation. Et puis c'est le premier à m'emmener en tournée, et les premières tournées que je fais avec Jérôme sont des tournées dans des pays où je n'aurais jamais mis les pieds autrement, aller jouer au Pakistan, aller jouer au Laos, au Vietnam, au Bangladesh, d'aller au fin fond de l'Afrique. Ça a tout de suite confronté aussi pour moi une relation au théâtre très loin du code. Ça veut donc dire qu'on arrivait dans des endroits où la première chose, on réparait un peu les plateaux pour pouvoir jouer. Ou parce que d'un seul coup, on avait essayé de jouer à un endroit, on se débrouillait pour jouer à un endroit, même si c'était en pleine rue, on était avec des musiciens et ça jouait. Et il y avait un côté presque, à cette époque-là, je repense à des souvenirs de certains musiciens de jazz qui partaient en tournée et puis arrivaient dans un restaurant, se mettaient à jouer parce qu'il y avait des jolies filles et puis qu'il fallait qu'ils jouaient. C'était un peu ça en fait. Et du coup, c'était aussi des confrontations à cette sécurité du monde du spectacle qui pour moi, tout de suite m'a permis de voir que si je considérais ma relation à l'art comme une relation humaniste d'abord, il fallait que j'accepte que ma vision européo-centrée devait exploser et que je vais admettre que j'allais me nourrir de ce que j'allais voir. Et c'est pour ça que j'écris aussi de manière, je pense, aussi libre, finalement, loin des codes, où je reste pas dans les codes du théâtre. C'est-à-dire que c'est cette formation-là, parce que j'étais sur scène, puis que voilà, j'ai souvenir au Pakistan de gens qui, pendant mon solo, me parlaient en étant accoudés sur le proscenium et se retournaient vers la salle pour dire qu'ils trouvaient ça extraordinaire. Et en fait, on ne verrait jamais ça en France. Donc ça veut dire que ce n'était pas d'un seul coup dire « mais ils sont pas bien » ou quoi. Non, non, c'était d'admettre que finalement, pour eux, le théâtre se vivait aussi comme ça. C'est cet endroit d'un seul coup qui m'a propulsé aussi dans l'idée de la liberté. Je pense qu'il m'a amené à la question de la liberté. Et puis je crois qu'il m'a vraiment poussé en me disant « ne lâche rien, sois toi-même et bats-toi ». Quoi. Donc je me suis battu avec moi-même.
Est-ce que, en fait, à chaque fois dans l'émission d'Antonin de Brecht, on demande à l'invité de nous donner une référence musicale pour qu'on puisse associer l'entretien à une musique, quoi?
Il y en a plein de possibles. Je sais pas, parce que en fait, actuellement, comme dans Temple Père, je travaillais avec Inga Huld à Konar de Tyr, qui est donc une danseuse, chanteuse qui parle six langues, donc je suis très inspiré par ce qu'elle crée finalement avec sa voix, avec cette possibilité d'utiliser tant de langues avec autant de facilité en fait, autant d'aisance. Alors je dirais que vraisemblablement Je pourrais pas l'associer aux trois à la trilogie, mais si je devais en associer un aujourd'hui, j'associerais certainement un morceau de Laurie Anderson pour ce rapport musical et à la voix. Born never asked.
It was a large room full of people, all kinds, and they had all arrived at the same building at more or less the same time, and they were all free. And they were all asking themselves the same question. What is behind that curtain? So you're free. So happy birthday. Thank you.
Alors là, on va peut-être parler un peu plus de la trilogie des Contes Immoraux, c'est pour ça que vous êtes à Rennes. La trilogie des Contes Immoraux pour Europe naît d'une commande de la Documenta de Cassel. Vous avez pu en 2016 monter la première partie de ce triptyque, la Maison Mère. Comment est-ce que vous avez pensé la relation entre ces trois contes ? Et est-elle venue dès la création du premier conte ? Et si oui, qu'est-ce que ça faisait de n'en présenter qu'un, du coup ?
Bon, déjà, je peux répondre déjà aux deux premières. Bon, déjà, Edune, quand j'ai eu cette commande de la Documenta, cette commande qui était faite à 100 artistes du monde entier, à qui on demandait de répondre à deux questions. Apprendre d'Athènes et pour un parlement des corps. Apprendre d'Athènes et parlement des corps, c'était parce que, en gros, on était en 2016 à l'époque, au moment où la Documenta se met en route, et c'est le moment où la Grèce est mise sous tutelle, notamment par le Conseil économique européen. Et le Parlement européen, notamment poussé par le ministre des Affaires étrangères allemand Schäuble, qui veut absolument que la Grèce soit, parce qu'elle ne rentre pas dans le pacte européen de restriction. Donc il y a cette question d'un seul coup de regarder finalement, bah, nous, Européens, ou en tout cas sur ce continent, on se gargarise sans arrêt que nous sommes le continent de la naissance de la démocratie, et notamment on en a fait un objet en disant que ça venait de la Grèce antique, donc la première république d'Athènes. Donc ça, c'était déjà la première question, et puis finalement après c'était de créer aussi à Kassel en Allemagne. Et Kassel, pour l'histoire, c'est quand même une ville un peu particulière, parce que pourquoi la Documenta a été créée à Kassel dans les années début des années 50, c'est que à la suite de ces je sais pas combien de une bonne décennie et plus, depuis 1933 jusqu'à 1945, l'Allemagne, sous le régime nazi, il y avait eu toute cette question de la dénazification. Et Kassel rentrait un peu comme un point d'entrée de ça, c'est que ça a été une des premières villes en 1933 à élire un bourgmestre ou un maire nazi. Alors que c'était une ville où il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de communauté juive. Il y avait pas, donc tous les arguments même du nazisme n'avaient aucun effet. Et par contre, c'est quand même la ville qui a élu un maire nazi. Donc a été décidé de créer cette Documenta sur cet endroit qu'on pourrait dire un peu les racines du mal. Et de recréer une relation de la société et des êtres humains à la société des Allemands par l'art. Donc ça, c'est déjà un élément vachement important. Et puis, il y a une chose très simple, c'est que la ville de Kassel, c'est la ville où vivaient les frères Grimm. Alors c'est vrai que très vite, je me suis dit, mais c'est rigolo que dans cet endroit, les frères Grimm, je me suis dit, mais il faut lier les deux, il faut faire des contes. Et ces contes, très vite, et j'ai tout de suite imaginé les trois. J'ai tout de suite imaginé finalement une relation que j'avais vécue en allant faire des repérages à Athènes, c'est-à-dire de voir une société en effet qu'on met sous tutelle et qui accueille les migrants, donc une société qui n'a déjà pas de quoi manger et qui accueille les migrants et qui leur donne à manger. Donc pour moi, il y avait une chance très belle dedans. Et en gros, c'est comme ça que je me suis dit, mais le premier des contes, il faut que ça parte d'Athènes, et donc ça parte de cette acropole où finalement, quand vous êtes dans tout ce quartier de l'acropole, vous voyez les quarts de touristes qui arrivent, et puis finalement, ces quarts de touristes, ils viennent converser avec l'image de l'histoire, mais ils ne conversent pas du tout avec le reste de la Grèce. Je veux dire, qui connaît le Moyen-Âge de la Grèce ? Non, on n'en sait rien, le 18e de la Grèce, non, on n'en sait rien. Donc en fait, il faut s'éloigner de l'acropole, et puis quand vous éloignez de l'acropole, vous voyez en effet ces gens plus pauvres, et puis vous voyez les migrants qui sont logés par les plus pauvres. Ça a tout de suite donné l'idée que la société européenne serait capable de fournir des maisons en carton pour les Grecs, parce qu'il fait toujours beau, quoi, parce que nous on regarde la Grèce en se disant on y va pour aller au soleil, pour aller se baigner. Donc c'est comme ça que j'ai tout de suite pensé que ça devait être des contes, et en plus ils étaient immoraux. Parce que si je me positionnais du point de vue politique, la seule réponse est immorale. Alors que si je me place du côté de l'humanité, jamais on ne penserait comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai pensé les trois. que j'ai pensé, en effet, la maison mère qui serait détruite par la pluie, en disant, bah oui, il pleut aussi en Grèce. Et finalement, cette maison ne résiste pas. Finalement, bon, avec cette épidémie de Covid, on peut se dire que cette maison qui est détruite, c'est un peu notre humanité sous le régime du Covid. Et très vite, j'avais de toute façon l'idée que Temple Père serait aussi la deuxième partie, c'est-à-dire que dans cette société européenne se posait la question de la représentation du patriarcat. Et puis cette troisième, la rencontre interdite, qui était finalement cette impossibilité de se résoudre à changer, qui revenait finalement à cette question, quels sont les interdits, et je crois que ça a été tout de suite comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, je n'ai eu pu jouer que la première, puisque le budget de la Documenta a tellement explosé par le nombre de projets qu'ils nous ont demandé de ne pas tout faire. Donc voilà, maintenant, 5 ans après, on y est.
Et justement, 5 ans après, mais il s'en est passé des choses en 5 ans, et un peu dans un monde, je dirais même pas post-apocalyptique, mais complètement apocalyptique. Et vu que vous aviez déjà imaginé les 2 derniers contes qui n'avaient pas été montés à l'époque, est-ce que les circonstances actuelles ont modifié aussi la manière dont vous alliez les présenter bientôt ?
Alors de toute façon, bien sûr que ça change complètement les choses. Mais je crois que quand on est sur des projets qui sont aussi longs, on est contraint de rester au quotidien accroché. Donc on évolue avec le quotidien. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, au moment où j'écris les contes immoraux, je pense complètement au réchauffement climatique. Donc je pense à ça. Ce que veut dire, par exemple, quand on finit la maison mère, il y a la pluie. La pluie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle remplit l'espace d'eau et finalement la tour du Temple Père est construite sur une sorte de pilotis pour pouvoir monter. Et qu'elle est là, par contre, aujourd'hui, un rapport encore plus affirmatif. C'est qu'en effet, comme tu le dis, on n'est pas post-apocalyptique. On est en plein dans l'apocalyptique. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas appris. On ne change pas les choses. On essaye de trouver encore une nouvelle fois une solution, mais... on n'a toujours pas décidé de considérer que notre invasion humaine sur l'espace naturel et notre mode de fonctionnement dans le monde fait que nous aurons de plus en plus de croisements avec des virus. Et ça veut dire c'est qu'on est dedans. Donc ça veut dire que pour moi, en effet, aujourd'hui, typiquement, quand je pense au troisième, la rencontre interdite, on est tellement dans l'interdit en ce moment que je suis bien obligé de me dire, mais finalement, peut-être que je vais être obligé de vous parler du plus essentiel. C'est finalement toucher la chose qui nous manque le plus, c'est-à-dire ne plus avoir peur de l'autre, parce qu'on est, rentré dans le... Là, on est aussi dans l'ère la plus fantastique pour ça, c'est-à-dire que on était déjà très hygiéniste. Mais là, on est même devenu un cap de la peur de l'autre. Finalement, ça a replacé des situations assez étonnantes. Je me dis, avant cette épidémie, nous étions quand même... finalement, on pouvait faire un distinguo entre la relation qu'on pouvait avoir avec des proches, des amis, des rencontres. Aujourd'hui, même le corps le plus ami, on ne sait pas forcément comment l'approcher. Est-ce qu'on lui donne un coude ? Est-ce qu'on a envie de... Est-ce qu'on va serrer dans les bras ? Est-ce qu'on met un masque ? Est-ce qu'on ne met pas le masque ? Ça a reposé des questions assez essentielles sur le corps, qui sont vachement intéressantes, je pense, notamment dans la prise de conscience du corps de l'autre, et donc du consentement. Parce que je crois que c'est ça que ça repose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a fallu une épidémie pour que le consentement devienne un sujet que tout le monde est obligé d'appliquer, et non plus simplement des femmes de sans arrêt dire aux hommes « le consentement, c'est un vrai sujet, tu sais ». Et je crois que ça, c'est essentiel. Mais c'est vrai que dans cette rencontre interdite, je faisais il y a quelques jours une sorte de liste comme ça, en me disant « mais c'est dingue, du moment de la séparation, c'est-à-dire... du moment où on sort du sexe de notre mère, et qui est donc le moment où finalement on rentre dans l'ère de la séparation, puisqu'il n'y a plus osmose, ce ne sont que des listes d'interdits. Parce qu'enfant, on interdit à l'enfant toute découverte. On cadre sa découverte à un domaine de la sécurité qui est monstrueux, et je pense que aujourd'hui, c'est aussi cette question-là. C'est finalement dans le mot de distance, dans le mot de consentement, dans le mot de toucher, de toute cette nouvelle donne. Ce sont des nouveaux interdits, mais ce sont des interdits dont on n'a aucune idée finalement jusqu'à quel point ils vont pas nous tuer en fait, plus que le virus. C'est ça qui est terrible. Donc il y a bien cette question-là aussi à traiter, quoi.
Il y avait les ateliers ouverts encore l'année dernière, je me souviens au TNB, le mercredi soir, je ne sais pas si c'était atelier ouvert, que ça s'appelait, je ne sais plus. Et vous en aviez fait un, et c'était en plus interroger la poignée de main. Et du coup, en y repensant pendant le premier confinement, je me suis dit, mais ça, c'est plus possible à faire. Enfin voilà, c'est tout ce que je...
Du coup, vous nous avez un peu parlé de du troisième conte, la rencontre interdite. Mais dans les deux premiers contes, donc c'est hyper flou, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans cette troisième partie. Mais en tout cas, dans les deux premiers, on a déjà une idée. Donc il y a deux bâtiments dans les deux premiers contes. Pour moi, le fait d'aborder l'humain à travers l'architecture, c'est lui donner un cadre d'existence très solide, même si c'est du carton. Est-ce que utiliser des scénographies de ce genre, une maison, une tour, c'est un moyen pour vous de montrer l'ancrage, la solidité de ce que vous souhaitez combattre et quelle fragilité s'y développe avec la crise sanitaire, des choses qui étaient très solides avant, qui ne le sont plus, positivement, négativement?
Alors là, ça c'est une question bien difficile parce qu'elle soulève beaucoup d'interrogations. Moi, finalement, dans ce que j'écris là, dans les contes immoraux, en effet, il y a trois architectures. Il y en a une, c'est la maison en carton, la deuxième, c'est la tour. Donc cette tour qui sort du cadre, qui remplit l'espace. Et puis le troisième, c'est quand même, dans la rencontre interdite, c'est le théâtre lui-même. C'est-à-dire l'architecture qui est cette architecture où on vient dans la société questionner la société. Donc elle est presque en miroir pour le croyant, c'est celle de l'Église, quoi. C'est celle du lieu religieux. Donc nous, finalement, laïcs, Le théâtre, c'est notre lieu, quoi. C'est quand même notre lieu de la pensée. C'est quand même le lieu aussi de la philosophie. C'est quand même le lieu. Donc il y a déjà ça. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus quand je crée des contes immoraux, c'est que je sais que par l'acte de construire, et notamment parce que j'ai beaucoup travaillé sur la destruction, et que c'est un des objets pour moi, c'est-à-dire que c'est aussi parler finalement de la trace, de ce que nous laissons. De la question de l'héritage, de qu'est-ce qu'on en fait de cet héritage sans arrêt. Typiquement, lorsque je pense à des architectures comme celle-ci, je pense de toute façon à la possibilité de raconter que la société existe au moment où finalement on vient à partager l'espace. Donc quand on partage l'espace, on en fait quelque chose. Je veux dire, c'est que si on regarde aujourd'hui, on envoie des engins sur Mars et on peut se dire ces engins sont déjà une sorte de création d'un espace de société qui va déterminer des choses sur un espace vierge. On est sans arrêt à cette relation de création. Donc moi, ce que je veux développer à cet endroit-là, c'est que, par exemple, dans Temple Père, cette tour, un château de cartes surdimensionné, que des esclaves montent et pour continuer à monter, on fragilise l'édifice. C'est la manière la plus simple pour moi, même sous une forme de jeu, de raconter là où nous en sommes, pour moi, dans la vision de la société. C'est-à-dire qu'on veut toujours trouver réponse à nos actes, mais on veut toujours aller plus haut. Et en même temps, comme ça s'appelle Temple Père, j'avais envie de m'attaquer à l'image de l'érection. C'est-à-dire que l'image que, en effet, les tours... vous prenez la plupart des tours, ce sont des tours qui portent des noms d'hommes. Alors si on prend la tour Trump, là on est au maximum, mais si on prend la tour Khalifa, on est pareil. C'est-à-dire que qui veut aller vivre au 828e mètre, c'est absurde. La seule chose par contre, c'est qu'on sait qu'on trouve de l'argent pour financer, pour faire ça, pour montrer. C'est un peu un concours de bites. C'est ça que j'aime questionner dans les objets architecturaux. C'est qu'ils renvoient aussi la question de notre propre soumission. Et plus la tour monte, plus elle nous raconte que nous sommes finalement face à un édifice que nous ne pouvons pas, qui ne sert à rien, que nous n'habiterons pas, mais qui est juste fait pour afficher un pouvoir. Un peu comme on met une grande statue et on la met de plus en plus haute sur un socle, histoire d'affirmer l'espèce de puissance. Et ça me surprend toujours, si vous regardez beaucoup de sculptures placées dans les villes, vous regardez les époques, vous regardez le type de personnes et vous verrez la taille du socle. C'est pas la sculpture qui est intéressante, c'est la taille du socle. C'est ce qu'on imagine finalement être l'acquis grâce à cette personne. Et je crois que c'est ça l'absurdité que j'ai envie de monter dedans. C'est que je montre ces absurdités-là. Et j'aime bien parce qu'elles sont aussi des endroits de provocation. Elles sont pas dans le sens de provoquer, mais plus dans celle du scandale. Ce que veut dire que Temple Père, c'est une scène de sadomasochisme. Il y a 4 esclaves qui montent une tour et puis il y a cette femme qui là, qui fait la dominatrice. Et je pose la question dedans qui m'intéresse, c'est-à-dire de dire, pour moi qui finalement en tant que femme récente dans la société, je suis toujours à me poser la question, je sais que ce sont les femmes qui tiennent la société, mais qu'est-ce qui fait qu'elles continuent à vouloir la tenir? Voilà, c'est aussi toutes ces questions-là qui se montrent dans l'architecture, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est cette réponse que je peux apporter, mais en tout cas, aujourd'hui, quand je regarde la trilogie des contes immoraux pour Europe, je vois bien ça. C'est-à-dire, je regarde, en effet, une sorte d'objet qui, d'un point de vue de l'architecture, nous raconte complètement, peut-être, notre relation à l'espace, notre relation au pouvoir, au contrôle. Qu'est-ce qui fait qu'on s'agglutine? Qu'est-ce qui fait que par moment on a besoin de s'extraire? Et donc revenir à quelque chose d'assez organique, en fait. C'est très organique.
C'est la description de la troisième partie dans le dossier nous a fait penser à la zone du dehors de Damasio. Est-ce que vous avez des influences qui nourrissent votre travail de scénographe, de metteuse en scène ou d'interprète?
Oui, bien sûr, c'est évident que pour moi, ça fait partie des... Je veux dire, en disant que je n'invente rien, c'est que je suis complètement nourri du savoir. Alors, aussi bien du savoir noble que du savoir populaire. Et je crois qu'en effet, aujourd'hui, immanquablement, dans mes sources d'inspiration... J'ai des Stiegler, des Barbara Stiegler, mais j'ai des Damasio, j'ai des Vinciane Després, mais finalement, je crois qu'on est tous là-dedans, et toutes là-dedans. En ce moment, on cherche à savoir parce qu'on nous a depuis trop longtemps coupé avec la pensée, que j'ai besoin de celle-ci. Après, j'ai aussi des inspirations d'artistes, ceux qui me font trembler, ceux qui m'amènent à me questionner sur la forme. Et puis aussi le quotidien de ce que nous vivons aujourd'hui qui m'interroge sur la capacité du théâtre et donc sur la possibilité du théâtre à continuer. Voilà, c'est vraiment ça l'objet.
Enfin Brecht, c'est ainsi que s'achève notre émission. On se retrouve la semaine prochaine dès 19h sur les ondes de Syllab. Et d'ici là, portez-vous bien. Des bisous.
Des bisous.
Pourquoi je fais du théâtre?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
Tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.